Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la rédaction de Game Info. Aujourd'hui, c'est notre épisode numéro 363. Ici Mordren et je suis en compagnie du Tyran. Salut Tyran.
Bonsoir.
Et on est avec ATH. Salut ATH.
Salut tout le monde.
On est évidemment avec le chat en direct sur Twitch. Salut le chat. Et au menu du podcast cette semaine, on va parler de beaucoup de choses. Une petite farandole de démos de la part du Tyran. On va parler de certaines dates ainsi qu'une annonce de jeu pour Total War Warhammer 3. Un rachat avec Gearbox Software qui a été racheté. Mais aussi, on va parler gros sous avec les résultats de Nintendo. Mais aussi, les chiffres de vente de la PlayStation 5. Puis, la pénurie pour la Xbox Series X et S. On va parler aussi d'Electronic Arts et du futur de la licence Star Wars chez EA. Et enfin, on va parler de la grosse news de la semaine, la fermeture des Stadia Studios par Google. Mais commençons tout de suite avec une nouvelle farandole du Tyran. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui ?
Alors, je précise, ce n'est pas une farandole de démo cette semaine, c'est le prologus de la farandole de démo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Tyran, il n'a pas eu le temps de jouer cette semaine. Parce qu'on est vendredi et que bon, faut pas déconner, hein. Voilà, je suis pas Dieu non plus. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette semaine, je vais vous parler du premier jeu auquel j'ai joué. Et la semaine prochaine, hein, on rentrera dans le cœur du sujet avec les autres jeux que j'ai téléchargés. Là, je me suis fait une petite liste. Et promis, je vous en reparle la semaine prochaine. Mais commençons donc cette semaine avec Loop Hero. Qu'est-ce que c'est, Loop Hero? Alors, c'est compliqué à décrire, ce jeu. Loop Hero, en gros, vous êtes dans un espèce d'univers où les étoiles disparaissent une à une. Et l'idée, c'est qu'il y a un grand méchant qui vient détruire votre planète. Et vous, vous vous réveillez et vous allez devoir reconstituer votre monde. En gros, grâce à ses souvenirs, le héros, il va commencer à régénérer le monde autour de lui jusqu'à ce que le méchant s'énerve et vienne lui péter la gueule. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un espèce de roguelike avec du jeu de cartes et du Mac 3. Voilà, voilà. Dans le genre mélange pas piqué des hannetons, ça se pose là. Alors l'idée, si vous voulez, notez bien le titre, Loop Hero. Loop, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le...
La boucle.
Enfin, la boucle, voilà, exactement. Vous tournez en rond, tout simplement. C'est-à-dire que le jeu, il se présente de la manière suivante. Vous avez un chemin tout tracé qui tourne sous forme d'une boucle, en fait. Vous allez parcourir cette boucle et au fur et à mesure de l'avancée de la partie, vous allez poser des obstacles à votre personnage. C'est-à-dire que vous allez poser une forêt, la forêt, au fur et à mesure, elle va générer des monstres, et ces monstres, ils vont vous attaquer. Alors, pourquoi vous feriez ça? Parce que, en fait, en tuant ces monstres, vous allez gagner du loot, et ce loot, il va vous permettre soit de faire popper des cartes qui vont vous permettre de régénérer le monde, entre guillemets, c'est-à-dire que les cartes, vous allez les poser, imaginons, tu as une carte montagne, tu la poses, ça crée une montagne, voilà, et ça te donne des ressources. Ainsi de suite, et surtout tu vas récupérer des armes, des armures, etc., du matos, bref, pour te défendre et aller péter la gueule au boss final qui a détruit ton monde, en fait, tout simplement. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est que plus vous allez régénérer le monde autour de vous, plus vous allez tourner dans cette boucle, parce que vous tournez vraiment en rond, en fait, hein, dans le jeu, c'est-à-dire que vous parcourez sans cesse le même chemin, jusqu'à ce que le monde soit régénéré, et jusqu'à ce que le boss final apparaisse. L'idée, donc, c'est d'aller créer le monde et de survivre le plus longtemps possible. D'où l'aspect roguelike, parce que vous l'avez bien compris, vous allez mourir très souvent. Voilà. Donc, ouais. Loop Hero, alors, le concept est assez original parce que le côté, les cartes de ressources que vous récupérez, en fait, qui vont créer des montagnes, etc., si vous les combinez d'une certaine manière, ça va créer certains types de ressources, en fait. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, imaginons, tu débloques une carte coffre à trésor. Si tu poses cette carte, il va falloir poser des ressources tout autour pour qu'à un moment, le coffre se libère et te refile de nouvelles ressources qui vont te permettre d'avancer dans le jeu, etc. Donc, c'est okay. Un jeu qui est... alors. Le problème que j'ai avec ce jeu, quand même, si vous voulez, c'est que décrit comme ça, je pense que vous vous en rendez compte, déjà, c'est que c'est un jeu où vous allez pas être hyper actif non plus. C'est-à-dire que le personnage, il avance tout seul, c'est pas toi qui le contrôle. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon, on serait un peu chier. Hein. Parce que c'est pas l'intérêt du jeu, si tu veux. Quoi. Enfin, l'intérêt du jeu, c'est de réfléchir à ton prochain move.
Ouais.
Donc, le jeu, il est vraiment dans cette optique de dire on va te décharger du maximum de choses, et toi, tout ce à quoi il faut que tu réfléchisses, c'est comment tu vas combiner tes ressources, comment tu vas combiner tes obstacles pour créer de nouveaux types d'ennemis, etc., qui vont te refiler de nouvelles ressources, et surtout, quel type de loot tu vas garder pour faire ton build, en fait. Parce que vous l'aurez compris, le loot que vous allez ramasser aussi, tu vas pouvoir créer différents builds. Par exemple, tu vas faire créer un build vampirique où tu vas regagner ta vie au fur et à mesure que tu tapes les ennemis. Tu vas créer un build esquive où tu vas éviter tous les coups et ainsi de suite. Le jeu, si tu veux, il part dans l'optique vraiment de dire toi, tu vas te concentrer essentiellement sur la réflexion. Le problème de ça, je trouve, c'est que du coup, le jeu, il a un aspect légèrement... comment appeler ça ? Enfin, j'ai pas envie d'être trop méprisant, mais il a un aspect un peu idle game, si tu veux, quoi.
Ouais.
Je sais pas si vous connaissez un peu les idle games, c'est...
Ah, si.
C'est les jeux où, en gros, ils tournent en arrière-plan, et tu regardes de temps en temps ce qui se passe, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que je trouve qu'il a un peu le cul entre deux chaises, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment un idle game, parce que tu peux pas te permettre de laisser le jeu comme ça, sinon tu vas te faire défoncer. Mais, d'un autre côté, je le trouve pas assez actif, si tu veux, dans ce qu'il te propose. Pour le moment, en tout cas... Je me dis, ouais, pour le moment, c'est quand même un peu limité. Alors après, il faut voir une chose, c'est que je suis... j'ai joué à peu près 3 heures à la démo. La démo a pas mal de contenu, j'ai l'impression. Et j'ai commencé quand même à entreapercevoir des choses intéressantes. Par exemple, quand tu vas poser une case forêt qui va générer des monstres, à côté de cette case forêt, j'ai débloqué une carte qui, lorsque tu la poses, va générer une espèce de plante qui va bouffer les monstres qui sont à X points de vie de crever, en fait. Donc ça, ouais. C'est-à-dire que ça te permet d'achever plus rapidement les ennemis. Donc je pense que quand même, malgré tout, il y a sûrement pas mal de subtilités, et ce d'autant plus qu'à chaque fois que tu vas crever, il y a une phase dont j'ai pas encore parlé, qui est la phase où tu vas construire ton village, en fait. C'est-à-dire que le héros, il a cette capacité, si tu veux, d'avoir une espèce de bulle temporelle où il peut reconstruire un village, et dans ce village, tu vas pouvoir construire une forge, tu vas pouvoir reconstruire une herboristerie, ça va te donner des nouveaux items, des nouvelles cartes, etc., qui vont enrichir le jeu au fur et à mesure. Et t'as une espèce d'arbre technologique comme ça que tu vas pouvoir améliorer grâce aux ressources que tu vas récupérer pendant ta partie. Voilà. Donc pour le moment, je suis un peu dubitatif sur l'aspect, on va dire, un peu passif du jeu. Par contre, il y a un truc où j'adore le jeu, c'est que déjà, je kiffe la direction artistique. Et je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais il a un aspect 8 bits, tu sais. Mais un peu comme Shovel Knight, c'est du 8 bits, mais pas vraiment.
Oui, ouais,
c'est,
clairement.
Le jeu, il n'aurait jamais tourné sur une NES avec cette gueule-là, quoi.
Ah non.
Et il a un aspect 8 bits qui est très intéressant. Il a une ambiance, surtout, que j'aime beaucoup. C'est plus pour ça que le jeu m'attire, finalement, que son gameplay, quoi. Mais à voir sur le long terme. Pour le moment, je m'amuse encore dessus. Mais j'avoue que... Je pense que ça fait partie de ces jeux, si tu veux, et où il faudra peut-être pas les juger sur la démo, quoi.
Pour ouais, se peut-être faire creuser un petit peu concret. Plus, quoi.
Voilà. Ouais. Ça mérite à... Ça a creusé, en tout cas, il a piqué ma curiosité, et je pense que je le prendrai le jour où il sortira, c'est-à-dire le 3 mars prochain.
Et d'accord. Ils ont pas peur de se manger un procès par Activision pour la typo de héros, quoi. À cause de la... Oui, parce que... Vous vous rappelez les licences de jeu, la Guitar Hero? C'est exactement le même type de typographie pour le logo.
Ah, tu vois, j'avais pas fait gaffe.
C'est pas faux, ouais. Effectivement. j'avais pas fait gaffe, mais il y a de ça, effectivement.
Et peut-être qu'ils l'ont fait exprès, histoire que d'essayer de se manger un procès pour que ça fasse parler du jeu, un truc comme ça, tu vois.
Ouais.
Je okay. Ne pense pas, non.
ça marche. Bon, bah, donc ça, c'était ton prologue sur la farandole de démo qui nous attend la semaine prochaine. Puisqu'on rappelle
qu'il y a pas mal de choses qui sont prévues. Hein. Je vous préviens. Ouais. D'ailleurs, soit dit en passant, pour ceux qui nous écoutent en direct, malheureusement, ceux qui nous écoutent en différé, ça sera trop tard parce que ça sera terminé dimanche. N'hésitez pas à vous rendre sur Steam. Il y a plein de démos disponibles actuellement. Voilà. Ouais.
Dans le cadre évidemment du Steam Games Festival, tu voulais également nous parler d'un autre jeu qui s'appelle Everhood. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors Everhood, encore un jeu avec un concept original, c'est un jeu qui mélange RPG et jeu musical. Voilà.
Okay.
ATH parlait de Guitar Hero, voilà, transition toute trouvée, merci ATH.
Ah, c'était un peu le but aussi.
C'est-à-dire que vraiment, tu vois l'interface du jeu, tu dis putain, mais c'est vraiment un jeu musical façon RPG. Et là, pour le moment, bon, pas grand-chose à dire, hein, on n'a pas vu grand-chose du jeu, c'est un trailer assez court, mais le concept a l'air original, enfin, je n'ai pas souvenir qu'il y ait énormément de jeux qui combinent RPG et jeux musicaux comme ça, et surtout, j'adore la direction artistique, encore une fois, c'est du rétro, mais c'est du rétro bien foutu, c'est pas du rétro de feignasse, tu sais, où tu vois qu'en fait, c'est juste qu'ils n'avaient pas de pognon et ils te font du pixel art bien dégueulasse, c'est quand même du... un rendu qui fait bien plaisir. Quoi.
Ouais, il y a un côté très Undertale là-dedans quand même. Hein.
Un peu, ouais.
Alors, espérant qu'il n'ait pas autant de fanatiques qu'Undertale, parce que sinon on va pas pouvoir respirer là.
Non, mais ouais, c'est... je trouve que tu sais, quand c'est des niveaux classiques, quand tu le vois se balader sur la map et tout, bah, ça rappelle grandement les jeux de la NES et tout, je trouve ça pas très joli. Mais dès qu'il y a une phase en scrolling ou bien contre un combat de boss, il y a beaucoup d'effets visuels et techniques qui viennent apporter pas mal de choses à l'ensemble visuel. Et là, je trouve que le jeu, il a quand même une certaine gueule. Et même les boss et tout, ça a l'air d'être complètement con. Dans le trailer, tu les vois qu'il affronte une espèce de distributeur automatique de billets. Enfin, tu te dis, ça peut être marrant, tu vois, si le concept tient jusqu'au bout et que c'est vraiment bien foutu. Et moi, c'est un truc qui m'intéresserait de voir. Surtout, tu vois, un peu un jeu que tu fais comme ça, quand tu rentres chez toi, t'es fatigué. T'as pas envie de te prendre la tête avec un gros RPG. Je pense qu'un jeu qui mixe un peu rythme et jeu d'aventure, ça peut être un très bon compromis, en fait. Et l'idée, elle était sympa, et puis ils l'ont trouvé, quoi.
Et ça sort très bientôt sur PC et Switch, puisque c'est pour le 4 mars 2021. Donc à surveiller. On va continuer avec deux jeux qui ont été datés. Alors, un plus précisément que l'autre, mais on va pas commencer d'abord par l'autre. Ça s'appelle Chris Tales et on vous en parle à chaque fois qu'il y a une news sur le jeu, donc visiblement c'est qu'on l'attend. Ce jeu, rappelez-vous, c'est un RPG qui vous propose en fait d'avoir simultanément sur votre écran le présent, le passé et le futur, et de vos actions qui ont lieu dans le passé ont forcément des conséquences sur le présent mais aussi le futur, et pas forcément d'ailleurs des conséquences toujours très joyeuses, mais du coup un concept très intéressant et également une DA absolument enchanteresse.
Et surtout exploité dans les combats aussi, c'est ça qui le rend original par rapport à un Chrono Trigger par exemple, c'est que vraiment l'aspect voyage dans le temps est utilisé dans les combats, quoi. Voilà.
C'est ça. Et donc, ben, la news de la semaine, c'est que le jeu sortira a priori en juillet 2021. Sans plus de précision, mais au moins on sait à peu près à quelle période de l'année on pourra enfin poser les mains dessus. Je crois que t'avais fait la démo, Tyran, et t'en étais sorti assez convaincu.
Ah bah, je suis tombé amoureux du jeu, moi, clairement. Hein, donc, c'est un des jeux que j'attends le plus cette année. Donc, comptez sur moi, je serai dessus. Et vu le thème du jeu, je pense que ça intéressera aussi un certain Mamie Lamy. Mais bon, voilà, je dis ça, je dis rien.
Eh ben très bien. Donc Chris Tales, juillet 2021. Passons à la suite avec une annonce quasi arlésienne. Hein. On en a entendu parler pendant presque des années et des mois avant que ça soit enfin officialisé. Mass Effect Legendary Edition, donc qui est un remaster de la trilogie Mass Effect 1, 2, 3. Sortira le 14 mai 2021. Ça a été annoncé cette semaine. On en a appris un petit peu plus, d'ailleurs, sur ce que c'était. Notamment, le fait que ils ont gardé le même moteur que précédemment. Donc, c'est toujours l'Unreal Engine 3 qui modélise tout ça. En fait, ils vont ajouter un certain nombre d'effets visuels, notamment des éclairages différents, etc. Ça n'est pas un remake total. C'est quelque chose sur lesquels ils ont énormément insisté dans une présentation relayée par jeuxvideo.com. L'idée, c'est vraiment d'être très très proche de l'expérience des joueurs d'il y a, du coup, les jeux sont sortis il y a quoi, 13 ans, le premier.
Le premier, je crois, c'était 2007-2008. Hein.
Ouais, c'est ça. Hein. Donc, presque 15 ans, quoi. Donc, ils ont beaucoup retravaillé le 1 pour essayer de faire en sorte que la transition soit un petit peu plus smooth entre le 1 et le 2.
Ouais.
Alors, ils parlent pas vraiment de remanier le gameplay pour que ça soit exactement celui du 2. Mais il y a, voilà, ils ont essayé de travailler pour que déjà visuellement ça soit moins choquant. Il y a notamment le fait que le modèle féminin transitionne entre le 1 et le 2 et le 3, ce qui n'était pas forcément très pratique précédemment. Donc voilà, ça va pas trop dans le détail, très honnêtement, mais on comprend quand même que c'est un remaster qui va pas non plus très 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 loin. On sait également que il y aura un DLC qui va manquer. Sur la quarantaine qui seront présents dans ce remaster, alors inclus dans le mot DLC, vous savez, c'est, donc il y a des vrais DLC bien sûr, mais des packs d'armes, etc. Donc bon, mais il y a un DLC qui va manquer à Legendary Edition, c'est le DLC qui s'appelle Pinnacle Station. Alors moi, je suis assez persuadé de pas y avoir joué à ce DLC à l'époque, mais c'est un DLC en fait qui proposait une section annexe dans le jeu qui te permettait en fait de t'entraîner sur un certain nombre de capacités et de gagner des points de compétences dans 13 missions de combat. Et ça, pour le coup, c'était déjà un DLC qui manquait à l'époque de la sortie sur PS3, me semble-t-il. Parce qu'en fait, ils ont eu un souci de corruption de code source. Alors, ils ont essayé de le récupérer, mais
ils ont perdu le code source et la sauvegarde du code source était corrompue, pour être précis.
Ouais, c'est ça.
Et surtout
coup,
que
c'était
pas BioWare qui l'avait développé, mais c'était Demiurge Studio qui l'avait fait.
Exactement.
Et c'est un DLC, apparemment, déjà pour l'époque, il était pas top, hein. Donc, je pense pas que c'est une grande perte par rapport à cette trilogie du remaster. Moi, ce qui m'aurait été embêtant, ça aurait été surtout les DLC scénaristiques qu'ils ont apportés dans le 2, dans
le
3.
Bien sûr.
Là, je pense que ça aurait été beaucoup plus embêtant. Mais bon, j'ai envie de dire, un DLC comme ça, qui n'apporte pas grand-chose à l'histoire, c'est pas grave si autour, t'as vraiment tout le contenu. Et puis là, techniquement, c'est pas de leur faute, quoi. C'est juste que le code source, tu vois, ils l'ont plus du tout. Et c'était arrivé pour bon nombre de jeux où il y a des jeux qui ont quasiment dû être recodés. Je pense notamment aux ressorties de Kingdom Hearts pour Square Enix, où ils avaient perdu les codes sources des jeux PS2 de l'époque, quoi. Et du coup,
tu sais, de toute façon, c'est le cas de la quasi-totalité du jeu sur PlayStation et Saturn. Hein,
Nintendo
64. Regarde les jeux Saturn, et c'est pas pour rien que Sega les ressort pas. Hein, c'est parce qu'ils ont pas le code source. Hein.
Ouais. Et du coup, ils sont obligés de faire un peu plus de travail. Mais en tout cas, moi, pour cette Legendary Edition, j'en attendais pas plus. Honnêtement, je m'attendais pas à un remake du 1, du 2 et du 3, parce que ça aurait été un travail vraiment trop colossal pour être fait. Mais je suis bien content qu'il ressort en remaster 4K 60 FPS. Donc, j'ai rien que le 60 FPS, je pense que ça va faire plaisir si vous avez fait le jeu sur la 3.6 à l'époque. Mais surtout, c'est un jeu qui va sortir donc sur PC via Origins et l'autre plateforme EA Play, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Donc c'est un jeu qui sera à peu près disponible partout. Et je suis très content, moi, que ça sorte, parce que les DLC scénaristiques du 2 et du 3, je les avais pas fait. Enfin, j'avais fait aucun DLC d'aucun Mass Effect.
Ouais,
et du coup, je me dis, ça serait peut-être l'occasion de me le refaire, parce que j'avais envie de me refaire l'épopée des Mass Effect il y a peut-être 2-3 ans, mais quand j'ai appris qu'il y avait l'annonce, j'ai dit bon, ça sert à rien de ressortir les anciens jeux, je préfère me prendre une version un peu complète avec un petit lissage graphique, et puis je pense que ça sera très intéressant pour ceux qui ont connu les jeux à l'époque et ceux qui vont découvrir aussi la série, parce que les remasters, il faut les voir comme ça aussi, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu les jeux à l'époque, qui sont arrivés sur la génération PS4, ou bien même qui ont entendu parler du titre, mais ils ont jamais osé sauter le pas. Et je pense que avoir une trilogie qui regroupe les trois jeux, c'est cool. Et moi, c'est d'ailleurs ce que j'attends beaucoup pour Hitman, tu vois. Hitman, j'attends d'ici un an ou deux qu'ils nous sortent une Legendary Edition avec Hitman 1, 2 et 3 pour me faire tous les jeux. Et je suis quasiment sûr et certain que ça va arriver, tu vois.
Oui, c'est probable. Tyran, toi, c'est un remaster qui t'intéresse ?
Pas du tout. Je comprends l'intérêt, hein, mais moi, j'avoue que Mass Effect, je suis passé à autre chose. Enfin, ça m'intéresse plus trop en fait comme licence. Donc, mais très bien pour ceux qui ont envie de le faire, notamment le DLC du Courtier de l'Ombre. Hein. J'avoue qu'à l'époque je l'avais un peu mauvaise, hein, le coup du ouais, t'as ce personnage super important là, on va te le mettre en DLC, on te l'a teasé pendant tout le premier épisode, mais en fait non, va te faire foutre. Donc tant mieux pour ceux qui ont pas fait les DLC à l'époque ou qui même veulent le découvrir aujourd'hui. Mais sinon, à titre personnel, j'avoue que ça m'indiffère pas mal. J'ai déjà beaucoup trop de jeux à faire, j'ai pas le temps pour un Mass Effect. Hein. Surtout que je vois la longueur des jeux. Non, c'est
vrai qu'ils sont assez longs.
Non, c'est pas mais possible. Enfin, pour un RPG, ça va, c'est pas non plus ultra
oui,
long.
Oui, pour un RPG, non, mais à terre, j'ai pas dit non plus qu'il durait un temps infini. Hein, mais c'est juste que j'ai pas le temps de consacrer à des vieux jeux comme ça. Surtout que j'ai pas de nostalgie particulière vis-à-vis de Mass Effect, donc personnellement, ouais. Hein, encore une fois, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà.
Ouais, Tyran, il a pas le temps, son esprit vise ailleurs. Allez, le 14 mai. le 14 mai, donc pour Mass Effect Legendary Edition. Passons à la suite avec l'annonce cette semaine de Total War Warhammer 3. C'est pas du tout une surprise, hein. On le sait depuis le début que ça sera une trilogie de Total War dans l'univers de Warhammer. Mais ce qui est intéressant pour les gens qui connaissent un petit peu et qui s'intéressent à cette série, c'est du coup les factions qui ont été annoncées pour ce jeu de stratégie.
Corrige-moi si je me trompe, en fait, c'est un peu comme Hitman, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouvel épisode, tu peux jouer aux campagnes précédentes aussi. Enfin, les jeux s'imbriquent les uns que les autres, en fait.
Les jeux s'imbriquent pour peu que tu les aies, ouais.
Ouais, par contre, contrairement à Hitman, où les missions des précédents jeux sont inclus, là, ça se... Enfin, faut acheter les jeux, hein. Faut acheter les trois pour... Et la chier de DLC qui va avec...
Excuse-moi, mais c'est aussi pareil pour Hitman. Hein. Ils te donnent
c'est pareil pour Hitman.
Les missions, elles sont pas incluses dans les...
Non, dans Hitman 3, j'ai pas le 1 et le 2, en personne.
Non, en fait, il faut soit que t'aies acheté les jeux...
Autant pour moi.
À l'époque, sur la même plateforme, ouais. Ou bien que tu commandes une édition spéciale qui est une édition vendue à 100€ par exemple, tu vois.
Bien sûr.
Et d'accord, autant pour moi. Non, mais voilà. Je dis de la merde. Très bien, il faut me corriger quand je dis n'importe quoi.
Non, mais...
J'étais
mais...
persuadé que les niveaux des précédents jeux étaient inclus.
Ah bah non, parce que sinon, du coup, tu vois, j'aurais acheté Hitman 3, j'aurais eu le 1, le 2 et le 3, tu vois.
C'est ça.
Non, non. Ok. Non,
c'est bien. Donc... oui, mais tu fais bien de parler de ce système-là parce que en fait chacun des jeux est indépendant l'un de l'autre. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous pouvez vous n'êtes pas obligé d'avoir le 1 pour jouer le 1 et le 2 pour jouer au 3, mm-hmm. Puisque chaque jeu a sa campagne personnelle, ses factions personnelles, etc. Maintenant, si vous êtes des gros fans et que vous avez les 3, vous êtes capable de faire une énorme campagne sur l'intégralité du monde parce que chaque jeu en fait a une partie de la map. Des factions différentes, mais du coup le gros intérêt c'est que une fois que t'as eu le 1 et le 2, tu fais une grosse campagne avec les factions du 1 et la carte du 1 et du 2, et là ce sera pareil mais avec le 3, donc qui va et c'est intéressant ajouter 6 nouvelles factions, 6 ou 7 nouvelles factions. Pour l'instant on en connaît déjà certaines mais pas toutes. La première faction, c'est le Kislev, donc qui est une faction du Nord, d'hommes du Nord, avec qui sont capables de chevaucher des ours gigantesques, donc c'est stylé. Il y a 4 factions à l'intérieur du chaos, donc le chaos qui est représenté par 4 dieux différents avec 4 propensions, enfin, on va dire 4 élémentarités différentes, donc Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch, et puis on attend d'autres révélations sur les futures factions, mais on sait que Creative Assembly a travaillé main dans la main avec Games Workshop, qui est donc l'éditeur des jeux de plateau Warhammer et jeux de figurines, pour avoir des infos sur à quoi ressemble une certaine faction qui n'a jamais été éditée en jeu, qui s'appelle le Grand Cathay, et qui, dans le lore de Warhammer, est inspiré des nations chinoises. Donc c'est le Grand Empire du Grand Cathay, et ça peut être grave stylé.
Mais ça fait envie, ton truc, là.
Ouais.
S'ils le font vraiment, c'est stylé, oui.
Ouais, parce que du coup, en fait, ils vont travailler... En fait, ils ont travaillé main dans la main pour avoir, du coup, à quoi ça ressemble chez Games Workshop, mm-hmm. et pour avoir... un premier avant-goût de ce qu'est cette faction dans le jeu Total War Warhammer 3, et je suppose que tout ce travail d'artwork, etc., ne va pas être vain non plus pour le jeu de figurines, si tu veux.
Mmh. Oui. C'est un plan commercial mûrement réfléchi, oui.
Ouais,
connaissant Game Workshop, il perd pas de nord. Hein, c'est
ça.
En fait, Total Warhammer 3, là, c'est intéressant, tu vois, mais c'est du jeu de stratégie, donc... je m'en fous un petit peu. Mais par contre, c'est quand qu'ils font un film, en fait. Parce que la cinématique, elle est ultra stylée.
C'est vrai que les cinématiques sont stylées, mais souvent les cinématiques de jeux de stratégie sont stylées, mais ça donne pas forcément des trucs au cinéma, parce que c'est compliqué de porter ça au cinéma. Remember Warcraft.
Ouais, mais Warcraft, c'était un film live.
Le truc,
live.
C'est que... Alors, le problème avec Warhammer aussi, je pense, tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord, mon c'est que je pense que, comme Warhammer 40 000, d'ailleurs, pour moi, c'est le même tonneau, c'est qu'en vrai, ça a l'air stylé comme ça, mais si tu fais un vrai film avec, c'est tellement kitsch, en fait. C'est du kitsch over 9000, quoi. Enfin, c'est over the top, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est du n'importe quoi qui intéresse les gens, mais c'est du n'importe quoi quand même, quoi. Et je pense que investir des fortunes dans un film comme ça, qui va être, je suis sûr, ça va être un immense nanar, tu vois.
Tu peux faire un film comme
alors
ça
moi,
avec
j'adorais,
un kitsch assumé. Non, mais tu peux faire un film comme ça avec du kitsch assumé. Et je pense, tu vois, notamment par exemple à Square Enix, à l'époque, il avait sorti le film Final Fantasy Adventure Zone. Alors, c'était un film d'animation ultra stylé avec des belles cinématiques. Enfin, un film d'animation vraiment très joli à voir. Et pourtant, tu vois, c'était pas un film qui était sorti au cinéma. C'était un film qui était sorti en DVD et les gens qui aimaient Final Fantasy VII, en fait, l'ont acheté. Et je pense que là, vu la masse de fans que Warhammer et que Total War aussi engendre, je pense qu'il y a moyen de rentrer dans leurs frais s'ils sortent un truc en Blu-ray. Tu vois, pas c'est pas forcément obligé de sortir une sortie en fait visant le cinéma. Tu peux viser aussi directement le marché DVD, quoi.
C'est possible. Ouais. Moi, je crois pas qu'il y ait de trucs prévus en tout cas de ce point de vue-là.
Ouais, mais en tout cas, j'aimerais bien en tout cas un film avec cette DA là. Tu vois, pas un film avec des vrais acteurs parce que je trouve ça kitsch, hein, comme tu l'as dit, le film World of Warcraft. Non, merci, quoi. Mais s'ils font un film basé sur la CGI qui représente un peu le jeu et les différentes factions comme ça, je me dis ça peut être sympa d'avoir un truc un peu genre le Seigneur des Anneaux mais dans un autre univers, tu vois, avec des factions différentes. Surtout que moi je connais pas cet univers, donc je pense que ça serait bien aussi pour ceux qui veulent mettre un pied à l'étrier là-dedans, tu vois.
Ouais. Alors pour ceux qui s'intéressent, il y a énormément de fan-films en images de synthèse, mais sur l'univers de Warhammer 40 000 pour le coup.
Des fan-films d'ailleurs dont certains qui franchement sont très impressionnants. En tout cas, Mordran, je ne sais pas ce que tu en penses, mais étant amateur de jeux de stratégie, alors j'avais zappé le 2 parce que je veux dire, j'ai vu le nombre de DLC sur le 1, c'est bon, j'ai compris, c'est quoi. Donc j'attendais qu'ils sortent le pack complet, tu vois, hein, pour revenir à la fin et acheter tout, quoi.
c'est exactement
par contre,
ce que j'ai prévu.
Ça, c'est le... Enfin, c'est comme Crusader Kings, quoi. C'est un jeu qui va bouffer notre vie, quoi. Enfin,
ah, c'est ça. C'est, au secours. C'est tellement chronophage. Et effectivement, alors pour le coup, il s'accorde bien en termes de direction marketing, Games Workshop et Creative Assembly là-dessus. C'est que les DLC, souvent, t'as très envie de les acheter, quoi. Particulièrement les DLC de factions, parce qu'il y en a. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve,
que
tu dois acheter des factions en DLC.
Ils connaissent bien leur public, hein, Game Workshop, parce qu'ils savent qu'ils ont des fans de telle faction, et que les fans de telle faction, s'il n'est pas dans le jeu de base, ils vont commencer à dire « Quoi ? Ma faction c'est préférée, ça. Il n'est pas dans le jeu ? Qu'est-ce que c'est ? C'est scandaleux !» Et du coup, ils savent que s'ils sortent un DLC derrière, les fans ils vont se ruer dessus. Quoi. Ouais. Donc,
Notamment, ça parle un petit peu, et c'est très attendu, des DLC autour des factions des Royaumes Ogres et des Nains Obscurs, puisque c'est toujours pas dans le jeu. Donc pour le coup, ça c'est des choses que les fans espèrent vraiment voir dans Warhammer 3, quoi.
T'inquiète pas, s'il y a de l'argent à se faire, ça va sortir.
C'est ça. Bon, alors en parlant d'argent, on va faire un gros tunnel gros sous cette semaine. Une fois, c'est habituel, j'ai envie de dire. On parle souvent gros sous. On va parler du rachat de Gearbox Software. Et ça pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Mais Gearbox Software a été racheté par Embracer Group. Alors, qu'est-ce que c'est déjà Embracer Group, Tyran?
Ben, vous vous rappelez de THQ Nordic? Vous savez, la boîte là qui rachète plein de trucs, tous les studios, les petits studios, etc. Enfin, qui rachète masse de trucs, dont la licence notamment, l'espèce de Zelda-like, là, comment il s'appelle?
Darksiders,
ouais. Voilà, exactement. ben, en fait, Embracer Group, c'est la boîte au-dessus.
Tu vois. D'accord.
Et c'est le boss final.
Ouais, c'est le boss final. Et non seulement ils ont THQ Nordic, mais ils ont plein d'autres boîtes en fait. Ils ont Semper Interactive, ils ont Koch Media, ils ont Deka Games, ils ont Amplifier Games Invest, ils ont Coffee Stain Holding. Donc il doit y avoir Coffee Stain Studio dedans, tu vois.
D'accord.
Donc Ouais, c'est pas des Mickey, quoi. Tu sais, c'est le genre de boîte, en fait, tu connais pas le nom de la boîte. Et en fait, quand tu regardes, tu dis, mais en fait, c'est immense, ce truc, quoi. Alors, certes, c'est pas Disney, mais pas mal, quoi, quand même.
Ouais. Ouais, par contre, donc des investisseurs, quoi.
On se demande bien d'où ils sortent tout le pognon, quoi.
Bah, tu sais, les investissements en bourse, hein.
Ouais, voilà. Mais comme THQ, à l'époque, quand ils rachetaient tout, on s'est demandé, mais attends... On veut bien que vous rachetez un studio ou deux, mais là vous en rachetez 10 par an. Et du coup, tu vois, l'argent c'est pas infini. On n'est pas dans GTA, tu fais le cheat code, t'es argent illimité ou tu tapes le code Simflouz et voilà, c'est bon. Là, tu te dis, mais attends, au bout d'un moment, c'est quand qu'ils vont s'arrêter? Les mecs, ils peuvent se permettre de racheter quasiment tout, enfin, à part Ubisoft, Electronic Arts, ce genre de choses-là, parce que c'est tellement plus cher que un studio par-ci par-là. Mais quand même, c'est des mecs qui, au bout d'un moment, ça va devenir une avalanche, quoi. La boule de neige, elle va commencer à grossir, et en fait, au bout d'un moment, ils auront quasiment la moitié du parc de jeux vidéo. Mais je pense qu'ils font aussi surtout ça, en fait, c'est pour essayer un peu de contrer le marché chinois, avec, tu sais, les grands groupes comme Tencent et tout, qui ont aussi acquis beaucoup, beaucoup de studios chinois, mais aussi occidentaux. Et je pense aussi, tu sais, c'est pour un peu contrer un peu ça, quoi. C'est-à-dire que... ils commencent à se fabriquer eux-mêmes en tant que géants, mais il faudra pas que ça fasse le cas de géants au pied d'argile. C'est-à-dire que ils rachètent, mais il faut que aussi derrière ça soit solide, parce que ça peut très vite couler, quoi. S'il y a beaucoup de projets qui foirent et tout, bah comme on a dit, tu vois, l'argent, c'est, au bout d'un moment, c'est pas un puits sans fond, et je pense que il faudra que les investissements soient très rentables pour que ça puisse perdurer, quoi.
Bon, après, bah, donc à présent, Gearbox, je pense qu'ils prennent pas beaucoup de risques. Hein. Quand tu vois le succès Borderlands, bon, voilà.
C'est ça, parce qu'on va rappeler quand même que Gearbox Software, c'est Borderlands, donc, et c'est aussi Duke Nukem. Mais bon, pour le coup, là, hélas, le vaisseau amiral, c'est très clairement Borderlands. À une époque, ils ont également fait les Brothers in Arms.
Ils ont fait Alien Colonial Marines aussi.
Exactement.
Avec l'argent de Borderlands. Enfin, non, l'argent de Borderlands l'argent d'Alien a servi à financer Borderlands.
ouais, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, Embracer Group, on connaît pas, mais si tu regardes, en fait, tous leurs studios quasiment, jusqu'ici, c'était très européen. Et maintenant, alors ils avaient quelques infrastructures aux États-Unis, mais ils se tournent un petit peu plus vers l'ouest. Donc peut-être que ça laisse dénoter d'une future stratégie. Mais effectivement, Gearbox, c'est pas non plus.
Ce qui est cool pour Gearbox, c'est quand même qu'ils veulent développer une nouvelle propriété intellectuelle. Tu vois, ils ont pas dit on veut Borderlands 4. Ils veulent créer quand même quelque chose de nouveau. Et
bon, après, j'ai envie de dire, il était temps, hein, parce que putain.
Ça va.
Enfin, cela dit, ils avaient tenté, il me semble, de faire. C'est pas eux qui avaient essayé de faire un espèce de Overwatch-like et qui s'étaient planté en beauté.
Godfall? Non, pas du tout.
Non. Faudra que je regarde, mais je suis persuadé qu'ils avaient sorti un espèce d'Overwatch.
C'est pas,
de concurrent.
C'est pas à Battleborn que tu penses?
Soit Battleborn, soit un autre jeu, ouais.
Oui, un jeu dont tout le monde se souvient, donc.
Un jeu qui a fait un four, en tout cas. Voilà.
Battleborn, effectivement, un Overwatch-like sorti en 2016.
Ah. Alcabelli nous confirme ça dans le chat. Merci, Alcabelli.
Il a même vérifié de sources sûres sur Wikipédia.
Voilà, donc ça c'était pour Gearbox qui a trouvé preneur. On savait même
bon,
pas
par
qu'ils
contre,
étaient.
Randy est toujours patron, hein. Vous réjouissez pas, voilà.
Mais attends, mais c'est vrai que Battleborn, ils avaient montré une espèce de démo dégueulasse et tout à l'E3 et tout, un truc super coloré, mais qui en même temps qui était ultra dark. Puis, ah oui, mais ce jeu-là, putain, j'avais même pas qu'il était sorti, quoi.
Bah oui, il était sorti, TH, voilà.
Attends, tu m'as dit. J'ai eu un flash là, tu m'as rappelé un souvenir.
Bon, allez, parlons de la suite avec Nintendo qui décidément se porte particulièrement bien en 2020. On a eu des échos, notamment des ventes de la Switch. La Nintendo Switch qui dépasse officiellement les ventes de la 3DS avec 79,87 millions de consoles vendues.
Ouais, on peut dire 80.
Oui. Sachant que rien que la Switch Lite, c'est intéressant d'avoir ce chiffre, s'est vendu à 13,5 millions d'exemplaires. C'est déjà plus que la Wii U.
T'es méchant, t'as pas... on n'a pas le droit de sortir les trucs comme ça qui blessent.
Mais non, mais c'est intéressant. C'est intéressant à dire.
Plus que la Wii U et aussi plus que la Dreamcast.
Mais donc voilà, donc ça c'est intéressant. Sachez également que toutes versions confondues, il y a 523 millions de jeux qui ont été vendus sur le support Nintendo Switch. Et que l'année, pour l'instant, l'année fiscale n'est pas terminée, hein, 2020.
Ouais.
Mais pour la période avril-décembre 2020, le bénéfice net a presque grimpé de 100% pour Nintendo. Donc ils font 2,9 milliards d'euros contre 1,5 sur la même période l'an dernier. Donc voilà, ça se passe très 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 bien, sachant que pour leur gros jeu sorti l'an dernier, à savoir Animal Crossing New Horizons, il s'est déjà vendu à 31,18 millions d'exemplaires. C'est déjà le deuxième plus gros succès sur la Switch, juste derrière Mario Kart 8 Deluxe, et il pourrait presque le dépasser puisque Mario Kart 8 est à 33,4 millions.
Je pense qu'il le dépassera dans un avenir plus ou moins proche, Animal
possible,
Crossing.
Ouais.
Ce jeu, il a tellement... En fait, c'est un jeu, si tu veux, tellement chill, qui peut plaire à un public encore plus qu'un Mario Kart 8, qui a déjà un concept assez large, très familial. Mmh. Et je pense que le Animal Crossing, déjà, ça fait moins de temps qu'il est sur le marché que Mario Kart. Mmh. Et vu le succès qu'il a pris en un coup, l'ampleur du phénomène, je pense qu'il peut très rapidement le rattraper. À noter aussi, dans la liste des jeux sur la Switch, les plus vendus, évidemment, c'est les jeux Nintendo, hein, qui
bien sûr
n'ont rien à envier à des jeux Electronic Arts, Ubisoft. Je pense que beaucoup de gens aimeraient d'avoir les chiffres. Comme tu l'as cité, Mario Kart 8 Deluxe, 33 millions, c'est assez ouf. Mais même des jeux qui sont un peu moins vendeurs et un peu moins grand public se portent très bien, comme Luigi's Mansion 3 avec quasiment 9 millions de copies, enfin un peu plus de 9 millions.
Ouais.
9 millions pour Luigi's Mansion
C'est
wow,
très bien.
Quoi.
Ouais, c'est un très vache. Joli chiffre, hein, pour Luigi's Mansion.
L'édition limitée qui nous avait dit à l'époque ultra rare, Super Mario 3D All-Star, quand même à 8 millions d'exemplaires.
Oh la vache.
Très limité. Hein. Et aussi, un petit RPG dans la liste, c'est Xenoblade Chronicles qui a 1,5 million d'exemplaires. Donc
ouais,
voilà.
C'est pas
mal, hein. Ouais, c'est quand même des jeux qui brasse aussi dans un public assez large. Mais par exemple, quand tu vois un jeu qui est un mousseau, hein, qui est un genre assez de niche, qui a du mal à, en général, atteindre les millions d'exemplaires, comme Hyrule Warriors, l'ère du fléau, 2,6 millions de copies. Et les ventes de Japon ne sont pas comptabilisées en plus dans le lot, donc tu peux t'imaginer qu'on est peut-être à 3 millions, ou peut-être un peu plus, quand même.
Ouais, quand même. Ouais, c'est... donc, bah écoutez.
Un très beau succès pour
ma petite entreprise.
Je pense que la crise. Sur le long terme, elle peut dépasser la PS4 éventuellement, vu que c'est une console sortie en 2017 et assez très très bien vendue. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit devant la PS4 à la fin de sa vie, parce que là pour l'instant la PS4 c'était le plus gros succès de cette génération. Peut-être que la Switch va la dépasser. Et je voulais faire aussi un petit aparté en parlant justement d'histoire de gros sous, parce que la semaine dernière, vous vous rappelez quand on parlait de l'affaire de GameStop? Je vous avais dit qu'il y allait avoir une adaptation au cinéma. Et bah, 5 jours après, on a déjà deux annonces de films pour une adaptation cinématographique. Donc ça fait même pas une semaine.
J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Ouais.
Voilà.
J'ai pensé à toi. Alors, toujours sur la Nintendo Switch, on a une petite phrase intéressante donnée par le président actuel de Nintendo, qui s'appelle Shuntaro Furukawa, chez Bloomberg, qui dit notamment... Il ne prévoit pas de faire une annonce bientôt pour une Switch Pro, puisqu'il y a déjà une Switch édition Mario prévue en février et une autre pour Monster Hunter en mars. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, quand on lui posait la question, il disait on n'a pas prévu de faire d'annonce. Là, la question, c'est je ne prévois pas de faire une annonce bientôt. Donc c'est rigolo le changement de terme, de terminologie, c'est-à-dire que bon, là on a des éditions spéciales qui sortent, on va peut-être attendre qu'elles se vendent et ensuite peut-être on fera une annonce si ça se trouve cette année, donc peut-être potentiellement un modèle.
Question, parce que moi je vois beaucoup de gens s'exciter là-dessus, est-ce que pour vous c'est une bonne idée de faire une Switch Pro?
Je suis pas
certain. En vrai
Bah oui, pourquoi pas.
Est-ce qu'il vaut mieux pas faire une nouvelle Switch en fait? Non, bah, je vous explique pourquoi, parce que là, moi je vous le dis, il y a beaucoup de remontées là-dessus, les développeurs ils font la gueule.
Tu m'étonnes.
Parce que ça fait du développement en plus, parce que du coup ça veut dire qu'il faut redévelopper une nouvelle version et que l'avantage, tu sais, des consoles normalement, c'est que t'as une version et puis voilà quoi. Bon, après, on sait tous que ça s'est pas mal dégradé ces dernières années, mais justement, Nintendo était un des derniers havres de paix, tu sais, où c'était possible avec la Switch, et là, on leur dit, bah en fait, ça va être comme chez les autres et vous allez vous démerder quoi. Et surtout, ce que disent pas mal de développeurs, c'est que ce qui va sûrement se passer, c'est que vous aurez une version Switch Pro qui sera optimisée, une version Switch classique qui sera un peu dégueulasse, quoi.
C'est ça. Moi, j'ai surtout peur qu'on revienne à la problématique de la New 3DS, c'est-à-dire qu'il y a eu trois jeux qui étaient exclusifs à cette console, et tout le reste, en fait, était développé pour 3DS normal. Donc, c'est soit cet effet-là, qui est à craindre, pour le coup, pour les futurs acheteurs de cette Switch Pro, soit l'effet que tu viens de citer, c'est-à-dire que ce sera plus simple pour les développeurs de porter leurs jeux qui sont développés pour des consoles current gen et donc du coup de porter ça sur Pro, et par contre la version Switch normale, c'est même pas en rêve, quoi. Donc c'est toujours problématique, ce genre d'entre-deux. Moi, je me souviens de... Bah, c'est un vrai échec hein, pour le consommateur, la New 3DS. Du coup, j'espère vraiment pas qu'ils iront sur cette voie-là.
Bah, disons qu'en fait, moi, mon constat, si tu veux, c'est que de toute façon, même s'ils sortent une Switch Pro, ils seront à la rue. Enfin, jamais, jamais, jamais la Switch Pro, elle fera tourner des jeux Xbox Series X ou PlayStation 5, enfin,
c'est ça.
Ou alors d'une façon tellement dégueulasse que voilà. Et le problème, c'est que si les développeurs derrière ne suivent pas, enfin, je suis dubitatif.
Non, mais ça m'étonnerait déjà qu'on ait une Switch Pro qui fasse un gap graphique aussi énorme que ça. Surtout que la Switch actuelle, c'est pas du niveau de la PS4 ou de la Xbox One. Hein. On est au niveau de la 360 et de la PS3 graphiquement.
Ah ouais, clairement, ouais.
Et donc ça m'étonnerait, tu vois, que sur la même génération, des jeux qui fassent tourner un hardware comme ça puissent avoir un aussi grand écart. Hein. Mais en plus de ça, moi je pense honnêtement que ce sera pas un problème, parce qu'on a vu le cas déjà s'opérer chez Sony, chez Microsoft pour la Xbox One X et la PS4 Pro. C'est des choses qui ont sorti, les gens ont fait la gueule au début, puis au final, les gens se sont accommodés. Je pense que s'il y a une Switch Pro qui va sortir, t'auras un gap graphique, mais ça sera pas un truc déjà immense, et ça sera surtout pour des performances niveau framerate, et je pense aussi, surtout, à l'image qui va être transférée sur le téléviseur, parce que beaucoup de jeux, c'est du 720p qui est envoyé comme signal sur la TV, et je pense qu'ils voudraient quand même passer à du 1080p. Donc je pense que ça serait limite ça, et si les gens sont un peu chanceux, un meilleur framerate. Mais par contre, faut pas s'attendre à une révolution graphique qui va te faire changer de... qui va te faire passer de la Switch à une console, tu vois, ultra performante. Hein. Il faut quand même que les jeux qui sont sortis au début de la génération avec le parc installé puissent tourner dessus. Comme en fait a fait Sony avec sa PS4 Pro et puis Microsoft avec sa Xbox. Hein. Ça sera des jeux qui vont tourner sur les deux hardware avec des petites compensations supplémentaires pour ceux qui ont investi. Mais je pense pas non plus que ça va être la console qui va être mis en tête de rayon, qui va être là pour vendre. Ça sera pas la console motrice. La console motrice, ça restera toujours la Switch classique.
Mmh. Ouais, mais ATH, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Sony et Microsoft, ils accompagnent les développeurs, tu vois, pour gérer les différentes versions, etc. Là, on parle de Nintendo. Est-ce que Nintendo a le même service, si tu veux, pour aider les gens à adapter leur jeu à telle ou telle version de la console, etc. C'est aussi ça la question. Qu'est-ce qu'il y a comme kit de développement, etc. Moi, les retours que j'en ai eu, enfin, j'ai l'impression que Nintendo, ils sont pas aussi, au taquet sur le suivi de ce genre de choses, quoi. Donc, c'est aussi pour ça que les devs ont un peu la gueule, quoi.
Ouais, mais après, tu les comprends, parce que sur leur machine, ils sont un peu en maître absolu. On parlait des chiffres de vente des jeux sur les consoles de Nintendo Switch. On sait que Nintendo, ils vendent beaucoup, mais les éditeurs tiers en général, ils ont un petit peu de mal. Même les indépendants, c'est un petit peu la gueule. Au début, c'était un peu l'Eldorado, les shops de la Switch. Les indépendants privilégiaient même cette version-là, cette plateforme-là, aux sorties sur PS4 et sur Xbox. Par exemple, je pense à des jeux comme Hades et Katana Zero qui sont sortis sur Switch, mais pas du tout sur PlayStation 4. Et ce qui me fait chier d'ailleurs. Mais bon, à un moment, l'âge d'or, il y a eu un âge d'or vraiment sur les jeux Switch et indépendants. Il y a eu une histoire d'amour à Nintendo qui ont fait un bon move par rapport à ça. Et je pense aussi que la console s'y prête parfaitement. Par contre, il faudra voir cette console-là vraiment comme un support d'appoint. Si les éditeurs arrivent à vendre des jeux dessus, comme ça soit des nouveaux Doom ou des jeux qui ont été portés sur la Switch comme The Witcher 3 et tout ça, ils feront le pas, ils feront le move, il n'y a pas de problème. Mais Nintendo va pas non plus, si tu veux, s'emmerder avec ce genre de problématique-là. Ils vont dire, bah vous avez qu'à faire un jeu Switch, et puis si vous voulez pas l'optimiser, vous l'optimisez pas. Mais Nintendo, eux, ils auront la main mise pour optimiser leur jeu, si tu veux, dessus. Parce que après, un jeu Switch qui soit pas optimisé sur la future Switch Pro, ou bien peu importe son nom, ça sera pas un problème, le jeu tourne quand même sur Switch, en fait.
Alors, dans le chat, ça parle du cloud, notamment. Ouais. Alors, moi... Tout ce que je sais, c'est que c'était un test. Enfin, je sais qu'il y a des jeux comme ça qui ont été faits où c'était du test. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de partenariat. Enfin, il n'y a pas de partenariat officiel avec GeForce Now ou de choses comme ça. Enfin, en tout cas, pas de trucs de choses en masse pour permettre à jouer en streaming sur Switch, quoi. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. Hein.
Tu avais Control qui était jouable comme ça. Assassin's Creed Odyssey aussi à l'époque qui était jouable comme ça. Après, ça peut être quelque chose qui peut être développé pour le futur. Ça peut être une option que Nintendo se garde sous le coude pour faire une grosse annonce par rapport à ça. Pour dire, vous voyez, les jeux que vous voulez jouer sur console ou PC, mais que vous avez qu'une Switch, et que techniquement, on peut pas faire tourner, on a cette possibilité-là, parce que Nintendo n'a pas fait de communication encore par rapport à ça, ça reste encore très flou. Et peut-être que c'est quelque chose qui se garde sous le coude pour faire une annonce lors d'un événement spécial, ou d'un éventuel E3 qui serait offline vu les tournures de cette année, quoi. En tout cas, moi je pense que ça peut être quelque chose qui peut être développé, et les tests, en fait les premiers jeux qui ont été faits, comme j'ai cité Control et tout ça, c'est des tests qui ont été faits pour voir si ça peut être viable et envisageable sur plus ou moins une grande échelle.
Ok, donc ça c'était pour la Switch. Passons à la PlayStation 5, on va parler des trois consoles cette semaine, incroyable, hein. La PlayStation 5, qui, on a les chiffres de vente, s'est vendue à 4,5 millions d'exemplaires en 2020 dans le monde. C'est un lancement qui égale le lancement record de la PlayStation 4. Donc 4,5, on se doute bien hein, qu'ils auraient aimé en vendre un poil plus. Mais que en termes de logistique, c'était compliqué. Sachez également que Sony prévoit d'en distribuer au minimum 3 millions entre le mois de janvier et le mois de mars 2021, donc la fin de l'année fiscale. Mais qu'évidemment, la pénurie notamment de processeurs chez AMD leur met évidemment des bâtons dans les roues. 4,5 millions de consoles du coup pour la PlayStation 5.
Alors, qu'on soit clair, hein, c'est chez AMD, mais AMD, ils ont une pénurie. Pourquoi ? Parce que le fondeur, celui qui fabrique des processeurs,
et oui.
qui fournit tout le monde, hein, c'est pas que AMD. Hein, c'est,
bien sûr.
Même Intel va bientôt aller se fournir chez eux, alors qu'à la base, ils ont leurs propres usines. C'est la pénurie chez tout le monde, en fait, là, en ce moment. Regardez ça. Les cartes graphiques, regardez la RAM, ça va augmenter aussi. C'est la misère partout en fait. Hein. Donc de toute façon, même si Sony aimerait bien, je ne doute pas en faire plus, ils ne peuvent pas. C'est factuel.
C'est ça.
Et y a une petite précision quand même, c'est 4 millions 5 consoles distribuées, mais vu qu'elle est un peu en pénurie tout ça partout dans le monde, ça se rapproche un peu des chiffres de vente totale.
Ouais.
Mais voilà, c'est quand même, il faut quand même être précis parce que c'est quand même distribué et non pas vendu. Mais bon, vu que dès qu'ils sortent une console PS5 dans un magasin, c'est l'émeute devant. Il y a comme ce qui s'est passé au Japon il y a un peu moins d'une semaine. Il y avait eu 100 PlayStation 5 qui étaient mises à la vente. Et puis, en fait, dans le magasin, t'avais 1000 personnes, quoi. Donc, c'était pas possible, en fait. Et la police a dû intervenir.
Vous avez vu cette vidéo, là, c'est hallucinant. Enfin, le truc au Japon, là. Je pensais pas voir ça un jour au Japon, des Japonais qui sont en plein Covid, Ramasser les uns sur les autres à essayer de choper une PlayStation 5. Alors, c'est pas non plus du niveau du Virgin Megastore, mais pas loin, quoi.
Non, parce qu'ils sont
c'est
quand même
pas voir
peu...
ça au Japon, quoi, tu vois. J'ai halluciné.
Ils sont quand même un peu plus disciplinés que chez nous en France, hein, parce que Virgin Megastore, il faut quand même se rappeler que c'était parti en Battle Royale à l'époque où le concept ouais. n'existait pas en jeu vidéo.
Pour la PlayStation 2, hein, pour rappel.
Ouais, pour la PlayStation 2.
Ah ouais, mais là, ce qu'on a vu en vidéo, c'est pour. Je veux dire, sur l'échelle japonaise, c'est limite du violent, tu vois. Enfin, c'est... Ouais, les mecs, ils se bousculent, attention hein, c'est...
Mais par contre, je me souviens, il y a une époque très très lointaine où une sortie d'une console au Japon, t'avais des queues comme ça qui étaient faites devant le magasin, mais c'était pas l'émeute non plus, mais il y avait quand même des gens qui faisaient la queue pour les consoles. Et puis j'ai remarqué, plus on avançait dans le temps, moins les Japonais, si tu veux, ils étaient là présents pour le Day One pour acheter les consoles, par exemple la PS4, et même la PS3, il n'y a pas eu l'engouement qu'il y a eu pour l'époque pour la PlayStation 2 ou la PlayStation 1, où vraiment les gens s'amassaient sur des kilomètres de queue pour acheter leur console Day One. Et là, j'ai eu un peu l'impression de revoir ces scènes-là qu'on avait à l'époque, qu'on en montrait dans les reportages. Moi, je me souviens quand je regardais Game One et ce genre de choses-là, quand ils faisaient des reportages au Japon pour des sorties des nouvelles consoles, que ce soit Nintendo avec la Game Boy Advance et tout, vraiment les consoles dans les années 2000, il y avait une queue qui était immense. Il y avait vraiment une ferveur pour le Japon et le jeu vidéo. Et j'ai un peu l'impression que, avec la démocratisation du smartphone et tout, cette chose-là, cette tradition-là de faire la queue devant le magasin, un peu comme chez nous, on dirait des mecs qui font la queue devant la boutique d'Apple pour acheter le nouvel iPhone le jour de la sortie pour être Day One, où il y a des gens qui campent carrément devant. Hein. Et bah, c'était cette ferveur dans ce sens-là, et cette ferveur japonaise avait un peu disparu. Et là, c'était un peu comme si le Japon, tu vois, ils avaient envie de rejouer aux jeux vidéo, quoi. Mais je pense aussi que.
Ouais. Alors, ATH, pour relativiser, faut quand même voir que les quantités sont très très limitées au Japon.
Ouais, ouais.
Et une des raisons qui fait qu'il n'y a plus cette ferveur au Japon, c'est, bah, c'est la faute de Sony. Hein. La PlayStation 4, rappelle-toi, elle n'est pas sortie en premier au Japon. Hein.
Ouais, elle est sortie d'abord aux États-Unis,
l'Europe et Japon. Les derniers à avoir été servis, c'est les Japonais. Ce sont Et ça, ils l'ont. Enfin, après, il faut. Je vous invite à écouter les podcasts de Gaijin Dash, notamment, une excellente émission. Ils l'ont très mal pris, les Japonais, hein, d'être les derniers servis.
Non, mais
notamment.
Là,
ça, plus il faut voir que le fait aussi que Sony développe de moins en moins de jeux japonais. Le siège de Sony, maintenant, il est aux USA, par exemple.
Bah oui, c'est Sony
quand,
USA qui...
Quand tu vois qu'ils retirent des moyens à Sony Japan Studio, tu vois que Sony, le marché japonais, ils font plus trop d'efforts non plus, quoi. Pour,
ouais, non, mais,
vendre
mais
des
moi,
trucs.
Ce que je veux dire, c'est par rapport, en fait, surtout à la présence du Covid, où il y a beaucoup de gens qui sont chez eux, en télétravail, et je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant, tu vois, qui se tournent aussi vers le jeu vidéo, et quelqu'un qui dit oui, bon, bah, qu'est-ce que je fais quand je suis chez moi, j'en ai marre de regarder Netflix et tout, il y a la PS5, bon, bah, j'ai quand même envie de l'acheter pour jouer à du jeu vidéo, quoi. Et je pense aussi que la Switch a notamment profité aussi de ce phénomène-là, c'est-à-dire que des gens, qui consomment de plus en plus de jeux vidéo parce que on a vu ces derniers temps les chiffres en 2020, le chiffre du jeu vidéo ça ils ont énormément grimpé parce que les gens ils sont vu que la plupart des pays sont confinés, bah qu'est-ce que tu fais quand t'es chez toi, tu joues aux jeux vidéo, tu regardes la télé, tu fais enfin tu essaies de t'occuper comme tu peux quoi.
Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour la PlayStation 5, parlons rapidement de la Xbox Series X puisque c'est lié. On parlait il y a 2 secondes de pénurie hein, et Tyran a bien fait de nous rappeler que bah c'était pareil pour tout le monde.
C'est,
eh ben,
pas
c'est pareil.
Pour acheter un nouveau PC, les gens.
C'est ça. Donc, c'est pareil, évidemment, pour les Xbox Series, qui, d'après Mike Spencer ?
Phil
c'est
Spencer.
Pas voir... Phil
bah,
Spencer.
Oui, moi aussi. Ouais, non, mais c'est une erreur sur la source que je suis en train de lire. D'après Phil Spencer, auprès de New York Times, qui dit qu'a priori, la situation de sous tension en termes d'approvisionnement va se poursuivre au moins jusqu'au mois de juin. Donc c'est lié, encore une fois, à ces problèmes de fabrication de processeurs chez AMD, notamment. Donc on se doute bien que c'est a priori la même timeline qui concerne la PlayStation 5. Mais donc voilà, a priori, on ne sera pas sur une situation d'offre pleine avant le mois de juin, donc bah, soyez patients si vous êtes si vous avez envie de passer sur la next gen, que ça soit chez l'un ou chez l'autre.
Modulo variant anglais et sud-africain, bien évidemment.
Bien sûr. Ouais.
Et aussi, même sur, comme l'a dit Tyran, sur PC aussi, en ce moment, les prix augmentent. Donc, attendez un petit peu, peut-être, qu'un bon move s'opère et vous précipitez pas directement quand vous voyez une console vendue 1000 balles sur eBay, le bon coin. Enfin, ça, c'est un truc qui m'exaspère, quoi. C'est les mecs qui achètent des stocks de consoles pour juste spéculer là-dessus. Ça m'a toujours dégoûté, quoi.
Alors, Veost, juste pour te répondre, en l'occurrence, les maîtres du monde niveau processeur, c'est pas les Chinois, c'est les Coréens.
Ok, alors, Electronic Arts. Parlons un petit peu d'Electronic Arts, puisque on l'a dit il y a quelques temps, Electronic Arts a perdu l'exclusivité sur le développement de la licence Star Wars.
Génial.
En jeu vidéo.
Bonne nouvelle.
Alléluia.
Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un son de cloche, notamment de la part de chez Ubisoft. Et on sait également que d'autres licences comme Indiana Jones partent ailleurs. On sait notamment que Bethesda s'occupe d'une adaptation d'Indiana Jones. Donc Lucasfilm part un petit peu voguer à l'aventure chez ses licences dans le jeu vidéo, ce qui est intéressant. Et Electronic Arts a dit cette semaine que la licence Star Wars, ils n'allaient pas du tout arrêter de développer des jeux dessus. C'est pas parce qu'ils ont perdu la licence en exclusivité qu'ils vont arrêter. Ils ont d'ailleurs précisé que depuis qu'ils ont la licence, ils ont quand même généré 3 milliards de dollars avec la licence en termes de partenariat avec Disney. Donc c'est énorme, et notamment un de ces 3 milliards, c'est juste le jeu mobile Star Wars Les Héros de la Galaxie. Donc voilà, c'est...
Inconnu au bataillon, de... je connais même pas.
Ah oui, bah alors, c'est... Bon, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un jeu qui a des énormément de contenu à lootbox, et donc je suis pas du tout surpris.
Tu es sûr de toi, Electronic Arts lootbox dans la même phrase, il y a pas une incohérence là.
Et donc bon, c'est un jeu plus ou moins tactique où tu vas avoir des personnages de la licence Star Wars, t'en fais des équipes et t'essaies en fait de leur faire grimper des niveaux, etc. À une époque, j'y jouais un petit peu, mais c'est insupportable en fait. La propension qu'ils ont à te forcer des loot box partout, ou tu sais, des time savers, c'est honnêtement insupportable. Donc je suis pas du tout surpris que ce truc là fasse un milliard de dollars depuis 2015. Depuis 2015, mais ce qui est intéressant, c'est que tout le reste de leurs essais dans la licence font 2 milliards, donc avec les Star Wars Jedi Fallen Order, etc., les Battlefront, les Squadrons, etc. Donc voilà, sachez donc que Electronic Arts va continuer dans du Star Wars. Si ça peut être plutôt du Jedi Fallen Order 2 que du Héros de la Galaxie 2, moi ça m'arrange, mais on va voir ce que ça va donner par la suite.
Bah, en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que je me dis que Disney, ils ont bien fait d'enlever l'exclusivité à Electronic Arts et de la distribuer à plusieurs entités, parce qu'on sait qu'il y a d'autres studios qui n'ont pas encore été dévoilés qui travaillent sur des jeux Star Wars. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que bah, justement, en fait, la licence va être disponible partout. Star Wars, c'est un univers tellement vaste, et du coup on pourra peut-être avoir un peu l'âge d'or des jeux Star Wars comme on avait eu à une certaine époque, où t'avais vraiment des jeux très qualitatifs, mais aussi t'avais des bouses qui sortaient. Et là, je me dis, s'il y a plusieurs studios qui sont sur le projet, il y aura le choix en termes de contenu, parce que je pense qu'il y en a qui vont faire du RPG, d'autres du FPS, d'autres des jeux de course. Et déjà, t'auras une diversité par rapport à ça, donc ça, c'est très important. Mais surtout, tu pourras te faire vraiment un choix par rapport à les studios, et qui vont se mettre eux-mêmes en concurrence, en fait, pour essayer de sortir un jeu Star Wars mieux que les autres. Et ça, si ça peut être fait dans une émulation saine, je trouve que ça a très bien, quoi.
Ouais. Moi, je serais curieux de voir, parce que là, pour l'instant, on parle de gros studios tout de même. Je serais curieux de voir ce qu'un petit développement pourrait faire, d'une vision un petit peu d'un développeur indépendant sur la licence. Je serais très curieux de savoir ce que ça peut donner en termes de nouveautés, de regard neuf, plutôt que de faire systématiquement du jeu AAA ou du jeu mobile.
Ouais, mais Mordren, il y a un problème, c'est que quel studio indépendant va pouvoir travailler avec les exigences de Disney, quoi.
C'est ça. Donc c'est ça que, forcément, parce que là, pour l'instant, il donne évidemment l'impression d'ouvrir, c'est une impression d'ouverture, mais en vérité, c'est plus une manière pour eux de rentabiliser encore plus la licence. Et la vraie problématique, du coup, c'est que là où, quand t'as un seul partenaire, éditorialement, c'est plutôt simple de dire, bon, bah voilà, à telle date, on va sortir un jeu d'action, à telle date, on va sortir un RPG. Le problème, c'est quand il y a plusieurs partenaires et qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur, à savoir Lucasfilm, qui dit, ok, vous avez le go. Et si ça se trouve, en fait, s'ils font pas gaffe, éditorialement, tu vas te retrouver à avoir un Ubisoft qui développe un jeu qui est similaire à un Electronic Arts, et c'est deux jeux qui vont sortir en même temps. Donc c'est pas forcément une très bonne idée.
Non, ça, je pense pas. Je pense pas quand même, les mecs, ils sont pas si bêtes pour faire deux projets similaires qui sortent en même temps, tu vois. Ça serait là... Ça serait complètement con, et tu vois, ils se tiraient eux-mêmes une balle dans le pied. Ils sont...
En tout cas, c'est ce travail que Lucasfilm doit faire seul, du coup.
Oui, bien sûr.
Puisque, évidemment, Electronic Arts va pas parler avec Ubisoft de ces choses-là.
Non, mais ça c'est sûr et certain.
Après,
mais...
je veux dire, Lucasfilm le faisait à l'époque, hein, donc ouais. Voilà, enfin, ça s'est fait par le passé. Et puis surtout, de toute façon, c'était pas possible de rester dans ce partenariat avec Electronic Arts qui ne faisait rien de la licence, quoi. Enfin, à un moment donné, ils ont fait quoi depuis tout le temps qu'ils ont cette licence, ils ont fait quoi comme jeu? Pas grand chose, hein. Jedi Fallen Order, super.
Battlefront 1 et 2 et Squadron, ça fait.
C'est pas grand chose, hein. Regarde le flux de jeux Star Wars avant le rachat par Disney et regarde maintenant, oui. Y a que dalle.
Ah, bien sûr. Mais c'est normal, ils sont exclusifs à Electronic Arts, alors qu'avant c'était pas eux qui géraient ça directement. Tu vois, c'était.
Ouais, non, mais ce que je dis, c'est que c'était une connerie. Pour moi. Si tu veux, le public, il y a tellement de publics à contenter, en fait, en matière de jeu, jamais Electronic Arts ne pourra contenter tout le monde, quoi. Donc, il était temps qu'ils ouvrent un peu la licence à d'autres personnes, quoi.
Mais après, je vais juste rebondir sur tes rêves utopistes d'avoir un studio indépendant qui travaille sur un jeu Star Wars. Je pense pas que, tu vois, Disney soit dans cette optique-là, parce que pour eux, Star Wars, c'est le cinéma, c'est le grand spectacle. Et si tu veux, faut que ça soit des jeux qui en mettent plein la vue, en fait. Et je pense pas que ça irait dans l'intérêt. Et puis même, vraiment, en tant que développeur indépendant, je préfère que les mecs se concentrent à créer vraiment une licence qui s'inspire peut-être de Star Wars, mais qui crée la leur, quoi. Parce que je me dis, tu vois, d'avoir les mains liées à quelqu'un comme ça, comme Disney derrière, qui est très regardant sur le projet, bah, déjà, en termes de liberté créative, c'est pas top. Mais en plus de ça, si tu vends ton jeu, tous les bénéfices n'iront pas directement à toi. Donc, je préfère qu'ils se concentrent directement sur des choses, et qu'ils essayent de faire pas du copier-coller de Star Wars, mais qu'ils s'inspirent de choses qu'ils ont envie, puis rajouter du Star Trek s'ils ont envie, de mettre des choses qui n'ont pas été créées dans cet univers-là, parce que honnêtement,
et puis surtout, ils n'ont pas à être conformes au lore de Disney.
C'est
quoi,
ça, enfin, voilà.
Moi, c'est aussi, surtout ouais. ça qui je pense va poser problème à la plupart des studios, c'est que derrière, Disney a un projet transmédia, tu vois, avec des histoires, des personnages, etc. Et dès que tu vas toucher à un truc, il faut faire valider par combien de personnes le truc, quoi. Enfin, c'est ça le problème, quoi. C'est bosser avec Disney, en vrai, c'est un enfer, quoi. Je pense même, très sincèrement, je pense que c'est pire que de bosser avec Nintendo.
Mais c'est vrai, oui. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on a eu énormément de sons de cloche là-dessus. Pas forcément que sur le jeu vidéo. Mais oui, éditorialement, Lucasfilm est extrêmement regardant de ce que font du coup c'est les personnes à qui ils licencient la licence. Et effectivement, oui, c'est compliqué. Veost qui dit la concurrence c'est bon. En plus, EA et Ubi ne font pas forcément les mêmes genres de jeux. C'est vrai. Et c'est intéressant du coup de voir que ils vont. Moi, je les vois plus du coup aller chercher différents éditeurs et différents développeurs en fonction de leur expertise. Sur tel ou tel terrain. Alors on a bien vu que l'expertise Electronic Arts c'était plutôt du côté des lootbox. Non, je déconne. Mais disons que ils sont capables de faire une expérience que Ubisoft n'est pas forcément capable de faire, et vice versa. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher Ubisoft pour faire quoi? Du monde ouvert. Electronic Arts c'est plutôt du jeu d'action, du jeu compétitif, du jeu multijoueur, des choses comme ça. Ça c'est intéressant de voir que du coup ils ont conscience aussi que le marché tu peux pas faire tout faire par le même acteur. Et ça c'est bon à savoir. Maintenant, tu vois, moi, vous êtes pas mal revenu sur le côté utopiste, et évidemment, je vous rejoins. Mais on a le droit de rêver. On est dans un podcast.
On sait que Benrin, tu es le premier conscient des problématiques de bosser avec Disney, hein, parmi nous tous ici.
Mais du coup, ce qui est, tu vois, moi, je pensais plutôt. Parce que évidemment, il y a certains genres de jeux que même Ubisoft et Electronic Arts ne sont pas capables de faire, ou surtout n'ont pas envie de tester, parce qu'il y a des, il y a des impératifs de rentabilité, etc. Mais tu vois, par exemple, un jeu de stratégie Star Wars, je suis sûr que tu donnes ça à un développeur pas de double A, il serait très content de le faire. Mais bon,
voilà, ouais, mais ça, c'est un rêve utopiste. En termes de vitrine technique, tu vois, et Disney vont dire. Vous n'êtes pas trop connu au bataillon, on va pas vous filer ça. Mais après, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Spyman. Il dit un nouveau jeu Star Wars Jedi Knight serait un rêve, enfin serait le rêve. Alors oui non, parce que si ça dépend qui est derrière, qui est aux commandes et surtout qui va écrire le jeu quoi. Parce que il faudrait que le jeu soit intéressant, soit bien écrit pour un RPG. Et après, si tu me dis ouais, on va faire un Jedi Knight.
Alors attention, ouais. Jedi Knight, c'est pas Knight of the Old Republic.
Ah oui, hein. Non, ouais, c'est... Putain, il y a tellement...
Oui, c'est
attention,
pas pareil.
Attention, tu es un fan de Jedi Knight ici, attention.
Ouais, Jedi Knight, c'est plutôt des jeux d'action, pour le coup, avec un aspect progression du personnage, etc. C'est des jeux que j'adore, hein, personnellement. Et c'est vrai que c'est différent de KOTOR. Et pour le coup, KOTOR, j'aimerais bien voir autre chose chez quelqu'un d'autre. Mais oui, effectivement... Faut donner le jeu de stratégie à l'éditeur Paradox, mais par exemple, il y a des choses à faire à mon avis chez Paradox.
Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un point où, à mon avis, on sera à peu près tous d'accord. Les partenariats qui ont été annoncés pour le moment, ça fait pas rêver.
Oui,
pour le moment,
je suis assez
bon,
d'accord.
Ubisoft, voilà, bon, ouais. Enfin, le problème d'Ubisoft, c'est que bon, des fois ils ont des fulgurances comme avec Mario, tu vois. Mais tu sens toujours l'open world d'Ubisoft qu'on va te recracher derrière. J'espère que ce sera l'occasion pour Ubisoft de faire autre chose. Voilà. Parce qu'ils sont capables de faire des choses géniales, hein, mais encore faut-il qu'ils le fassent. Quoi.
J'y crois pas.
J'imagine trop le Stormtrooper en train de monter sur des AT-ST pour repérer la map et tout, putain. Il escalade tous les AT-ST.
LKBD ou From Software Triangle. Pour la Dark Soulisation de Star Wars.
Bah non, Electric Arts l'a déjà fait sans From Software, donc ça ira, non?
C'est ça.
Niveau système. Enfin bref, on va pas revenir sur le
système. Ils l'ont Dark Soulisation, mais light. Tu vois, il y avait la petite mention light.
La light Soulisation.
Ah, c'est vraiment du 0% alors. Hein.
Ok, bon, allez, c'est la dernière news de ce podcast. Grosse news, hein, puisque on vous a pas mal parlé d'Amazon ces derniers temps, mais on parlait pas trop de Google et Stadia. Et pour le coup, Google a fait un move intéressant, on va dire, cette semaine, puisqu'ils ont fermé les Stadia Studios. Alors, ils ont pas fermé Stadia, attention.
Oh.
Par contre, ils ont fermé les studios de développement qui étaient censés faire des choses exclusives à la plateforme Google Stadia. Donc,
c'était là-bas donc qu'était parti bosser Jade Raymond. Enfin.
Oui, exactement. Bah d'ailleurs, elle s'est barrée de Google maintenant. Elle travaille plus chez Google Stadia.
Pas de chance pour Jade Raymond qui a un petit peu raté son coup. Là-dessus, mais Google aussi, hein, puisque bon, c'était
surtout Google.
Ouais, ils avaient annoncé en grande pompe le côté vous avez vu, on fait une plateforme, donc évidemment Stadia, le cloud gaming, etc. Mais aussi, on va faire nos propres jeux pour vous donner envie d'acheter et de souscrire à notre abonnement. Problème, ils se sont rendus compte que bah, l'air de rien, ça coûte cher hein, de développer des jeux, et puis c'est des coûts qui sont exponentiels et que ça dure très très longtemps. Puis Google, c'est quand même ça a beau être un géant, c'est un géant impatient. La preuve, puisque dans le communiqué, en fait, on apprend que je cite, créer des jeux de premier ordre à partir de zéro demande de nombreuses années, des investissements importants et sans le blague. Coût augmente de façon exponentielle compte tenu
Attends,
de notre volonté de nous appuyer. Compte tenu de notre volonté de nous appuyer sur la technologie éprouvée de Stadia et d'approfondir nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne pas investir davantage dans le contenu exclusif de notre équipe de développement interne. Au-delà des jeux prévus à court terme. Donc c'est-à-dire que les jeux qu'ils avaient prévus là à court terme, bah, ils vont sortir ou ils sont déjà sortis, mais qu'il n'y en aura pas d'autres, et donc ils vont fermer les vannes du développement interne. Donc bon.
C'est-à-dire que être atterré par l'amateurisme là ou
ah là c'est honnêtement le changement de fusil d'épaule, sachant que le Stadia c'est ça, ça a quoi, même pas 2 ans.
Ouais.
C'est encore. Je trouve ça dingo en fait.
Mais en fait, si tu veux, pour rendre un peu hommage à Jade Raymond, t'as l'impression que Google Stadia, ils ont un peu fait le saut de la foi dans le vide. Et ils ont pas atterri dans la boîte de foin, quoi, ils sont tombés à côté, malheureusement. Mais les mecs, j'ai l'impression qu'ils développent, ils veulent faire du jeu vidéo, mais ils savent pas comment faire. Alors que pourtant, c'est qu'il y a quand même du pognon derrière. Mais moi, je vais réitérer ce que j'ai dit pour Amazon Studio. Je pense que ces acteurs-là devraient être éditeurs de jeux, repérer des jeux indépendants, les financer. Et justement de les avoir en exclusivité sur leur plateforme, déjà ça serait pour eux une belle vitrine, ils auraient pas aussi tous les investissements à faire, ça leur coûterait moins cher, mais pas forcément que des jeux, si tu veux, uniquement indépendants, mais je pense aussi à des éditeurs, par exemple à l'éditeur français comme Focus, qui aimerait bien aussi pouvoir mettre un peu plus de jeux, de pognon dans leurs jeux, mais tu sens que financièrement c'est un peu ric-rac, pourquoi pas signer des partenariats un petit peu comme ça, tu vois, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Rocksteady avec Warner Bros, où ils avaient développé la trilogie des Batman Arkham. Je pense qu'il y a moyen, en fait, si tu veux, en tant qu'éditeur, d'apporter du pognon, parce que eux, le pognon, si tu veux, ils ont à plus avoir qu'en foutre, limite. Et je pense que ils peuvent aller dans ces choses-là, d'avoir des projets un peu ambitieux, mais pas trop, des projets un peu moins ambitieux, mais qui peuvent rapporter gros. Admettons que quelqu'un, demain, développe le nouveau Minecraft, et que c'est Google qui l'a financé. Tu vois, ça peut fonctionner. Et je pense que, en tant qu'éditeur, ils peuvent se faire une petite place dedans. Alors, regarde comment Devolver, ils ont grimpé au fur et à mesure du temps en sélectionnant des jeux qualitatifs, en essayant d'avoir un catalogue fourni qui parlait à des gens. Maintenant, limite, à chaque E3, ils ont leur propre conférence. Et alors que c'est quand même des gens qui sont quasiment sortis de nulle part. Ils se sont fait un nom petit à petit, ils ont commencé à éditer des jeux. Et aujourd'hui, bah, Devolver, c'est un nom connu dans l'industrie du jeu vidéo. C'est plus un truc obscur dont plus personne parle. Google, c'est un nom que tout le monde connaît. Amazon aussi. Et s'ils iraient dans cette chose-là de faire vraiment de l'édition, ils pourraient vraiment s'en sortir et faire quelque chose d'intéressant. Après, eux, ils veulent vraiment, ils ont vraiment voulu mettre des choses en avant, mais t'as l'impression qu'ils savaient pas comment faire, quoi.
Non, mais ATH, moi, honnêtement, je pense pas que c'est ça. Je pense que la vérité, c'est que Google n'en a plus rien à foutre de Stadia. Regardez le simple truc. Stadia n'est pas inclus dans le dernier Chromecast. Le Chromecast, qui je le rappelle quand même, est un des trucs qui se vend le mieux chez Google, quoi. Enfin, c'est un des trucs qui marche le mieux. Et Stadia n'existe pas sur ce truc. Il faut aller le télécharger à part, etc. Google est en train d'abandonner Stadia. Faut pas chercher midi à 14h. Moi, très sincèrement, je vais leur accorder le bénéfice du doute et penser qu'ils sont pas totalement débiles et que quand ils disent qu'ils avaient pas prévu. Que, tu te rends compte, quand même, le jeu vidéo, c'est un gros investissement sur le long terme. On n'était pas au courant. Ils savaient très bien ce qui est. C'est qu'au départ, ils étaient partis dans un truc. Ils se sont rendus compte que Stadia s'est planté comme une grosse merde. Et que maintenant, ils sont en train de virer tout le surplus, quoi. Et petit à petit, comme à peu près tous les services de Google, ils vont mettre Stadia sous perfusion. Et ils vont le laisser crever dans son coin, comme à peu près tous les services que Google a lancés et qu'ils ont abandonné du jour au lendemain parce que ils n'ont aucune perspective long terme, quoi. Voilà.
Ouais. Akenaï est d'accord avec toi dans le chat et je suis d'accord avec toi aussi, tiens, parce que on voit bien que Stadia c'est pas du tout le raz-de-marée attendu. Il y a effectivement des gens qui sont à fond dedans, mais ils sont tellement peu. Le truc c'est que le problème de Google, c'est que, on l'a dit dès le début avec ce projet, c'est que Google, c'est un des acteurs les plus volatiles du milieu. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui marche pas, ils s'en battent les couilles, ils arrêtent le truc, tu vois.
C'est normal, ils ont tellement de pognon. Ils en ont rien à foutre.
Donc là, en l'occurrence, oui, c'est vraiment, ils en ont rien à foutre, quoi. Et je suis assez d'accord avec Thierry dans le fait que, on fait ça un petit peu en douceur, mais bon. Le truc va rester actif jusqu'à ce qu'il y ait plus personne, tu vois, pour râler sur la fermeture du service, quoi.
Mais parce que encore, tu vois, s'ils avaient fait cette annonce-là en annonçant autre chose à côté, en disant on s'est rendu compte que la stratégie des exclusivités c'était peut-être pas la bonne stratégie, mais derrière regardez tout ce qu'on a prévu pour Stadia, il y a rien de prévu pour Stadia. Hein. Stadia, t'as limite l'impression que ça n'existe plus chez Google, quoi.
Ouais. Donc pour l'instant, les gens, en fait, les développeurs vont profiter de des chèques que Google fait pour que les développeurs daignent avoir une version Stadia de leur jeu. Mais bon, je me fais assez peu d'illusions sur le futur du service, quoi.
Et surtout qu'il y a eu un pognon de dingue qui a été investi dedans. Moi, j'ai vu des pubs Stadia passer à la télé, sur Internet, et de manière massive et consécutive. Au moment de sa sortie, c'était quand même un coût médiatique et marketing qui a coûté pas mal d'argent, parce que tu vois, tu fais pas un spot TV comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête, hein, ça coûte quand même un certain nombre de fric. Et c'est ça qui est dommage, quoi, c'est que les mecs, ils ont investi de l'argent dedans, et puis ils disent, oh, ça marche pas, bah tant pis, on s'en fout. Et ça me fait marrer, sur le chat, je vois LKBD qui met un site recensant tous les projets tués par Google. Ouais. Je pense que la liste doit être pas mal longue.
Il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que sur une année où quasiment tous les acteurs du marché ont progressé, parce que 2020, pour le jeu vidéo, ça s'est quand même plutôt pas trop mal passé. Hein.
Ouais.
Sur une année où beaucoup des acteurs du marché ont progressé, Stadia... Pour le coup, ils font le chemin inverse de dire bah on n'accélère pas en fait sur le développement de jeux vidéo, on n'y croit plus. Donc ça veut bien dire quand même que il y a quelque chose qui s'est pas forcément bien passé, tu vois, et que l'air de rien, malgré le fait qu'on dise oui, on est tous restés chez nous machin, le cloud gaming n'est peut-être pas encore assez mature pour que le grand public s'y mette, parce que pour le coup c'est plutôt le grand public qui doit être intéressé par le cloud gaming, parce que les core gamers ils sont plutôt équipés a priori pour jouer,
ouais, mais...
à des expériences qu'on te propose en cloud gaming.
Moi je suis pas d'accord par rapport à cette vision là, parce que pour moi en fait, si tu veux, le grand public c'est lui qui fait les ventes et les succès d'une machine, mais c'est les core gamers qui démarrent le succès en fait. C'est-à-dire, c'est les core gamers qui vont faire le succès d'une machine au départ, et après, ça va faire, si tu veux, un effet de boule de neige. Si t'as pas les core gamers sur ta plateforme, tu n'auras jamais le grand public. Parce que, tu vois, même quand on parlait du... Tu peux me dire, oui, mais là, oui, c'est le grand public et tout. Ouais, mais là, oui, il faut savoir que Nintendo, ils ont un public de fans immense, et c'est des core gamers de chez Nintendo. Si tu veux, c'est des mecs, dès que Nintendo sort une console, ils sont là. Même pour la Wii U, les mecs, ils étaient là. Et... c'est ces gens-là en fait qui commencent à faire du bouche à oreille, qui commencent à faire venir les jeux, et après le grand public suit. Ça a toujours été comme ça.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que fondamentalement dans la promesse,
oui,
le cloud gaming ne peut pas forcément avoir un attrait aussi énorme chez les core gamers, puisque les core gamers de base, a priori, ils ont des PC qui peuvent se soustraire au cloud gaming. Du coup, c'est ça qui, à mon avis, dans la promesse en général, hein, du cloud gaming, pas forcément que pour Stadia,
ouais,
est problématique.
Mais moi, si tu veux, je te rejoins entièrement sur ton analyse. Mais là où est le problème, c'est que dans les core gamers, t'as aussi par exemple des gens qui jouent sur console et qui voudraient avoir des versions
bien sûr
optimisées sur PC. Donc du coup, eux, ça aurait pu les intéresser de faire justement ce switch-là. T'as des mecs qui arrivent en fin de vie de leur génération du PC, et au lieu de faire la transition et de dire « bon, je vais passer sur Stadia, voir ce que ça donne », ils ont préféré investir dans des cartes graphiques, dans du nouveau matos, et c'est là où la transition s'est pas faite. C'est-à-dire que tu peux avoir des... Regarde, on a qu'à prendre comme exemple nous-mêmes, ou des gens qu'on connaît. C'est-à-dire que s'il y a une console qui va sortir, que ça soit Xbox, Nintendo, Microsoft, enfin ce que tu veux comme marque, tu vas quand même garder un œil dessus. Par exemple, si tu vois, moi, la Switch, une console qui me fait envie, je vais peut-être faire un achat dessus. Et du coup, si tu veux, à la base, je voulais pas l'acheter parce que ça me fait chier, ça sera pas ma console principale, mais quand même, je vais quand même aller dessus. Du coup, ça me fera une autre plateforme supplémentaire. Et si Stadia aurait eu vraiment une offre intéressante, je dis pas que j'aurais sauté le pas de Day One, mais je me dis que si l'offre fonctionnait bien, s'il y avait du contenu intéressant, et que le prix serait abordable, ça aurait eu une offre qui aurait pu m'intéresser. Mais là, ce que propose Stadia, y a rien qui m'intéresse du tout, mis à part le fait d'avoir un abonnement et de jouer à des jeux. Mais Google le fait mieux. Enfin, pas Google, mais Microsoft le fait mieux avec son Game Pass, par exemple,
ouais,
ce genre d'offre-là. Et c'est là où c'est dommage. C'est que si l'offre a été intéressante et alléchante, les core gamers s'y seraient intéressés. Mais je pense que ça n'a pas eu d'écho auprès des core gamers, parce que l'offre ne leur parle pas, tout simplement pas, en fait. C'est aussi bête que ça, quoi.
Bien sûr. Ah oui, non, mais en fait, ils ont bien joué leur coup, Microsoft, c'est qu'en fait, tu ne peux pas tenir la comparaison au Xbox Game Pass, quand bien même le placement du produit n'est pas du tout le même.
Mmh.
C'est difficile de rivaliser avec... d'un côté, t'as un abonnement qui te propose certes du cloud gaming, mais derrière, t'as une dizaine de jeux. L'autre côté, t'as un abonnement qui, certes à l'époque, ne proposait pas encore de cloud gaming, mais t'as une centaine de jeux. Donc comment veux-tu en fait faire face? Sachant qu'en plus, derrière, sur Stadia, il fallait que tu investisses dans le matériel, puisque Stadia te vendait aussi la manette, je sais plus s'il y avait une espèce de mini-console, mais le Chromecast, enfin voilà, c'est quand même un investissement, Stadia, l'air de rien. Et c'est pas juste un claquement de doigts en te disant « bon bah ça y est, je suis abonné, et je joue ». Comme peut l'être un Shadow, par exemple.
Et ouais, c'est ça.
Alors, juste pour rigoler un peu, je me suis amusé à parcourir le lien pendant que vous discutiez avec les projets avortés. Je me suis arrêté à 41, je suis même pas à un quart de la page.
Oula.
Et oui, ça c'est le problème de Google. C'est bon. C'est bien hein, d'être une entreprise agile, sauf que quand tu n'as pas de ligne directrice sur tes nouveaux projets qui te coûtent énormément d'argent, c'est quand même un peu dommage.
Mais en plus ça, bon. Tu parlais de Shadow. C'est un peu la comparaison avec Stadia. Bon, après Shadow, ça n'a pas les moyens de Google. Hein. Enfin, ça, c'est clair et certain. Mais c'est là que tu te dis, tu vois, même Shadow, qui est une entreprise française, même en France, on n'entend pas trop parler. Parce qu'on a entendu des fois, quand il y a eu des mouvements, quand ils ont fait des annonces de lancement et tout. Mais honnêtement, Shadow, ça fait peut-être 3-4 ans, j'en entends plus parler, quoi.
Bah, ouais. Le problème de Shadow, parce que j'avais vu pas mal ça avec des gens qui essayaient de s'abonner, et je dis bien essayer, c'est que en fait, quand tu veux t'abonner à Shadow, tu passes sur une liste d'attente.
D'accord.
Parce qu'en fait, ils n'ont pas l'infrastructure. Le problème de Shadow, c'est qu'ils n'ont pas l'infrastructure, hein, tout simplement.
Bien sûr.
Ils peuvent pas suivre la demande, en fait. Alors, je dis pas que la demande non plus est stratosphérique, mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, quoi, en fait. C'est le gros problème de Shadow, quoi.
Bah ouais, mais tu vois, donc, admettons que Google aurait été intelligent, alors je dis pas forcément avec Shadow, mais avec une autre entreprise qui sait faire à peu près la même chose dans le monde, parce que vu que Shadow c'est français, je pense que ça doit concerner uniquement notre territoire, mais je sais pas, dans le monde, aux États-Unis ou en Italie ou je sais pas quel pays, il y a bien une entreprise peut-être équivalente à Shadow qui propose un service qualitatif et ils auraient pu justement se baser là-dessus et ouvrir des serveurs au lieu d'investir uniquement dans du matos. Comme ça, de dépenser des millions, peut-être qu'ils auraient pu avoir le fournisseur qu'ils avaient besoin avec la connaissance et les détails techniques, et eux leur fournir vraiment ce qu'ils avaient besoin, c'est-à-dire des serveurs et aussi de l'argent pour l'entretien et ce genre de service, quoi. Là, je pense que ça aurait été plus intelligent que d'ouvrir un truc comme ça, de se lancer dans le vide, et puis au final, au bout de deux ans, on dit ah bah ça a pas marché, bah tant pis, on a dépensé combien, 1 milliard, oh, pff, on s'en fout.
Mais
ouais. Et là, en tout cas, quoi qu'il arrive, parce que Morden parlait de l'abonnement à Microsoft, honnêtement, même s'il n'y avait pas eu Microsoft, regardez un peu l'abonnement de base. Enfin, on te dit, bon, t'auras une centaine de jeux, puis par contre, tous les autres jeux, faudra les payer. Hein. Et puis, il te faudra une connexion de Brutas. Et puis, bon, alors on t'avait dit que techniquement ça allait être ouf, mais en vrai, c'est pas si ouf que ça. Donc, voilà, c'est la promesse de Stadia en vrai, elle fait pas rêver quoi. Honnêtement, ouais. Quand je vois l'offre par exemple du GeForce Now, ça me fait beaucoup plus rêver, tu vois. Alors, GeForce Now, ils ont d'autres problèmes, c'est qu'ils s'embrouillent avec les éditeurs et du coup.
C'est ça.
Voilà, ça c'est un autre souci. Mais quand je vois que GeForce Now, qui est beaucoup plus sexy, bah, marche pas non plus tant que ça, enfin, j'ai pas l'impression non plus que ce soit la rue vers l'or, quoi. Je vois mal comment Stadia, avec son service foireux, aurait pu faire quoi que ce soit, quoi.
Bien sûr. Et il y a Kiltia qui me corrige dans le chat qui dit que Shadow est aussi également aux USA et ils ont un total de 150 000 places comprises.
Okay. Ouais, et d'ailleurs, toujours dans les corrections, effectivement, j'ai dit une grosse connerie tout à l'heure. TSMC, c'est pas coréen, c'est taïwanais. Je sais pas pourquoi dans ma tête ils étaient coréens. J'étais persuadé qu'ils étaient coréens. Mais Kiltia m'a bien corrigé. Merci beaucoup.
Ok, eh bien, écoutez, je vous propose de conclure le podcast de cette semaine là-dessus.
Alors, on reviendra. Il y a deux choses qu'il faut qu'on dise cette semaine. La première chose, c'est que ce week-end, ce sera l'anniversaire de Mandren. Donc la semaine prochaine, n'oubliez pas de souhaiter le bon anniversaire à Mandren. Et surtout, envoyez les dons, hein, parce qu'on en a besoin. Il a dévalisé la caisse, encore une fois. Après la PS5, maintenant l'anniversaire. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire, hein, voilà.
Et la X-Series aussi.
Le voilà. Fossoyeur de Game Info.
C'est ça. Et en plus, deuxième chose, Monsieur Mandraine fera un stream à 21h. Alors ça, désolé pour ceux qui sont en différé, vous pourrez pas y être, mais 21h stream peinture de figurines sur la chaîne de Mandraine. Donc Monsieur va aller manger là et n'hésitez pas à revenir lui faire un petit coucou. Merci.
Pour rester dans le thème avec Warhammer. Allez, bon du coup, on vous laisse là-dessus les amis de Twitch et des auditeurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau récap de l'actualité vidéoludique. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Salut tout le monde et puis jouez bien sûr. Des bisous.
Merci pour l'écoute et bon jeu à vous.